Bienvenue au Festival de l'AMI pour la remise du prix exceptionnel de la croissance, de la richesse par la création d'emplois. Les nominés sont
Tafta avec le poulet au chlore, Tafta avec la modernisation du code du travail et enfin Tafta avec la liberté de circulation des biens, des capitaux et des services.
Et des travailleurs.
Et des travailleurs.
Et le prix sera remis par l'équipe du Monde Diplomatique menée par Serge Halimi le lundi 9 juin 2014 à 21h sur Radio Libertaire 89.4. Donc ce soir nous recevons des amis du Monde Diplomatique en la personne de Serge Halimi qui est le directeur de la publication, Renaud Lambert et Benoît Brévy, rédacteur en chef adjoint tous les deux, donc dégradé ce soir, on a du lourd. Et on va vous parler d'un sujet assez peu entendu dans les médias, dans les gros médias, puisque il s'agit tout simplement de cet accord entre les États-Unis et l'Europe sur les échanges, les services, les commerces, que des choses passionnantes. Alors je vais commencer tout de suite par donner la parole à Serge Halimi. Non, je ne dois pas donner la parole à Serge Halimi. Si tu veux pas. Bon, ben écoute, c'est pas. Je vais donner la parole directement à pas à Benoît, mais donc à Renaud. Eh bien Renaud, qu'est-ce que la TAFTA? Qu'est-ce que le GMT? Qu'est-ce que le PTCI, le TTIP, l'APT, toutes ces appellations dont on ne comprend rien? Pour ceux qui ne se renseignent pas trop, c'est-à-dire 99% d'entre nous.
C'est la même chose.
D'accord.
Ouais, c'est ce qu'on a découvert. Alors on s'est demandé un petit peu, là, tous les acronymes que vous venez de citer renvoient GMT, Grand Marché Transatlantique, APT, Accord pour un partenariat transatlantique, TAFTA, c'est le même genre de choses mais en anglais. Mm-hmm. Tous ces acronymes renvoient donc au même projet, celui d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, négocié assez discrètement depuis plusieurs années. Le projet même remonte à plusieurs dizaines d'années, comme on essaie de le montrer dans une chrono, dans le dossier du diplôme. Et on s'est demandé aussi pourquoi tant de noms pour désigner la même chose.
Et pourquoi ça nous intéresse, parce que certains pourraient voir là l'intention de masquer ou de créer une espèce de masque, de paravent avec des appellations multiples, et empêcher peut-être le citoyen lambda de s'y retrouver, de s'y reconnaître.
Alors je sais pas s'il y avait une intention de masquer à travers la multiplication de noms, mais en tout cas qu'il y ait une intention de masquer les négociations, de les rendre le plus secret, ça c'est absolument certain. Le mandat qui a été donné à la Commission a été négocié extrêmement discrètement. Les informations ont eu du mal à filtrer. Lorsque le Monde Diplomatique a publié son premier article sur la question, c'était en novembre, Benoît, si je me trompe pas, novembre, c'est ça, un papier de Laurie Wallach. À ce moment-là, on parlait assez peu du grand marché transatlantique, ce que nous, on a choisi d'appeler grand marché transatlantique. Et l'une des raisons probables de l'émergence d'un nombre aussi important d'acronymes, c'est que différents groupes d'organisations se sont emparés de la question et ont forgé leur propre acronyme, cependant que les négociateurs eux-mêmes utilisaient le leur. Alors, dans le cas d'espèce, c'est TTIP, TTIP. Et on pense voir dans la multiplication de ces acronymes une des manifestations du manque d'information, du manque de transparence sur ces négociations.
Pourquoi un manque de transparence? Est-ce qu'il y a des choses à cacher? Parce que j'ai cru comprendre, après ce que j'ai pu lire ailleurs, que c'était plutôt un accord gagnant-gagnant. Pourquoi dissimuler un accord gagnant-gagnant?
Peut-être parce que les gens ont compris avec le temps que ces accords gagnant-gagnant n'étaient pas gagnants pour tout le monde et perdants pour pas mal de monde. C'est déjà ce qu'on disait au moment du grand marché européen. Mmh. C'était un accord gagnant-gagnant. Il devait y avoir 5 millions d'emplois ou 6 millions d'emplois à la clé. Enfin, ce genre de promesses, on a un peu l'habitude
de les entendre.
Ouais. Bon, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, vous savez, ça devait créer 585 000 emplois, je crois, à contrainte allégée. On n'a pas vu le premier d'entre eux.
Alors souvent, d'ailleurs, dans les promesses qui sont faites lors de la création de ce genre de traité, enfin la mise en place de ces traités, c'est la création d'emplois. Donc des créations d'emplois, c'est bien joli, mais sous quelles conditions, sous quelle forme, si c'est pour faire du sous-emploi ou des emplois d'esclaves, est-ce que c'est vraiment intéressant en plus de créer 6 millions d'emplois d'esclaves? Je ne sais pas si c'est intéressant. Mais alors par contre, donc pour en revenir revenir à ça. Ça me rappelle l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements à la fin des années 90. Est-ce que là, on est devant quasiment la même chose, une espèce d'ersatz ou de transformation, de mutation de l'AMI, ou est-ce que c'est totalement autre chose? Parce que beaucoup d'auditeurs, certains même d'attaque, etc., ont quand même pas mal lutté, ou en tout cas été très renseignés sur ce qu'était l'accord multilatéral sur l'investissement ou les investissements. Est-ce que là, on est devant la même chose, quasiment un peu réactualisé ou remis au goût du jour? Benoît, peut-être?
Bah, je pense que effectivement, il y a un certain nombre de dispositions qui étaient dans l'AMI qui se retrouvent ou qui pourraient se retrouver en tout cas s'il n'y a pas une opposition dans le traité transatlantique. Et effectivement, je pense qu'il y a un parallélisme à faire entre les deux. Et quand vous demandiez tout à l'heure pourquoi, il y avait une absence de transparence sur ce sujet, ça me rappelle la phrase d'un sénateur américain qui expliquait que eux, ils voulaient bien donner de la publicité à ce type de négociation, mais que le problème, c'était que quand c'était trop publicisé et que les gens en avaient connaissance, eh bien ensuite, le projet capotait. Et ils prenaient en exemple l'AMI pour expliquer que finalement, si on voulait avancer, il ne fallait pas que les gens soient au courant.
Mais c'était déjà le cas de l'AMI. Il a été mis à jour, au jour, grâce à vous, je crois, le monde diplôme en partie, attaque, avec Bernard Cassens à l'époque, etc. Et c'est donc là, j'ai l'impression qu'on a beau lutter et empêcher des accords d'arriver. Quand je dis on, c'est un peu tout le monde, ceux qui sont un peu battus contre ça. Et ça ne va jamais s'arrêter. Donc c'est cet ami, cet accord. Là, si jamais celui-ci tombe, je saute un peu les étapes, on va revenir dessus. Est-ce qu'on ne va pas s'en reprendre dans 5 ans sous un autre?
L'ami, c'était quand même il y a 15 ans. Donc,
c'était 98, oui.
Ça a permis de déléguer la douleur de 15 ans. Là, on espère qu'une nouvelle victoire nous permettra de gagner 30 ans. Quant à savoir si le projet des classes dirigeantes n'est pas de multiplier ce genre de projet jusqu'au jour où ils aboutissent, bien sûr que oui. C'est pour ça que la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la résistance qu'on peut leur opposer. Et le précédent de l'AMI, de ce point de vue-là, est un précédent dont on peut tout à fait revendiquer la paternité, puisque le résultat a été bon. C'est un accord qui devait être négocié, conclu il y a longtemps et qui a été en quelque sorte arrêté. Oui. On espère le même sort au grand marché transatlantique.
Pareil, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable. Alors, si j'étais un vrai journaliste professionnel, je serais neutre et objectif et je vous demanderais, mais enfin, n'en rigole pas, c'est très sérieux. Les bienfaits et les méfaits de la TAFTA, il y a quand même plein de choses très bonnes dans la TAFTA. Vous en connaissez, non? Peut-être, non?
Puisque vous êtes un journaliste informé, vous allez nous les donner.
Mais non, justement, je comptais sur vous. Ou alors, il faut que je replonge dans les articles que j'ai lus. Mais en tout cas, vous pouvez faire semblant de donner ceux que vous avez cités et en fait de les dématérialiser assez rapidement, puisque évidemment, c'était la promesse d'une création d'emplois pour tous. On nous fait croire, mais ça montre très légèrement que ça va être le nivellement vers le haut, puisque est-ce que les accords vont permettre, par exemple, de permettre, aux travailleurs américains d'avoir la même sécurité sociale que les Français, etc., etc. Ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les Européens se retrouveraient avec Renault. Tiens, il me regarde en rigolant.
Ouais, on a parlé tout à l'heure de la question du secret des négociations et ce qu'on nous a expliqué, mes collègues ont donné une image assez négative du processus de négociation. Moi, je voudrais citer la commission quand même qui explique pourquoi elle a œuvré au secret. Et donc, il nous explique, pour réussir des négociations commerciales, il faut respecter un certain degré de confidentialité, autrement ça reviendrait à montrer son jeu à son adversaire durant une partie de cartes. Donc en gros, le GMT, c'est une partie de poker.
Les gens qui est gagnant-gagnant, donc c'est ça qui est absurde.
Oui, c'est ça. Alors, c'est à la fois un partenariat, mais en même temps des gens contre lesquels on bluffe. Et on s'aperçoit que cette question de bluff, elle transparaît aussi dans les informations que l'on donne. Donc tout à l'heure, on a expliqué qu'il y avait un secret qui entourait ces négociations, on entendait parler de très peu de choses, et puis c'était pour notre bien évidemment, puisque pendant ce temps-là, la partie de poker avait lieu, mais quand même quelques chiffres ont filtré, des créations de plusieurs millions d'emplois, basées sur un calcul assez savant de la transformation de la croissance espérée en nombre d'emplois, et un chiffre a fait son apparition, c'est le chiffre de 545. 545, c'est le nombre d'euros que chaque famille européenne pouvait escompter, voire arriver vers elle, dès la signature de l'accord.
C'est le paradis,
par an,
ouais.
Ah, c'est moins sympa déjà.
Donc, à Radio Libertaire, j'imagine qu'on est favorable à l'arrivée de au gain de 545
euros 1,50 par jour par famille.
C'est un café. en terrasse.
En novembre 2013, on était à quelques centimes. Mmh. Si ah, ça augmente. Donc ça a d'accord. augmenté en 2014, ah, on est vachement
c'est,
mieux.
C'est du commerce purement là. Hein. C'est-à-dire,
c'est la croissance.
D'accord.
Donc ce chiffre a été répondu, on peut le trouver, on donne dans le journal, dans le dossier.
Dans le monde diplomatique.
Dans le monde diplomatique, ouais.
Vous démontez assez vite quand même. Hein.
Ouais. Ah,
c'est très bien d'ailleurs.
Bah, parce qu'en fait, à partir du moment où l'information commence à circuler, il faut rappeler que si l'information circule, c'est sur la base d'un travail d'organisation militante qui dénonce le poids des lobbies, qui dénonce le cours libéral de la construction européenne. Des informations ont commencé à filtrer et il y a une scène assez cocasse que l'on peut visionner si on a le courage d'aller sur le site de la Commission européenne, mmh. où l'on voit l'un des responsables des négociations, Karel de Gucht.
Vous en parlez beaucoup, oui, on le retrouve quasiment tous les articles.
Oui, c'est un personnage clé de l'histoire.
On va donner son grade, ce monsieur, il a un statut.
Bah, c'est le commissaire européen au commerce, parce qu'il faut signaler d'emblée quand même aux auditeurs que c'est un traité qui est négocié pour tous les États européens. Mmh. Par la Commission européenne.
Le Parlement, il devra...
Donc, une fois que les États ont donné mandat à la Commission européenne, comme c'est le cas dans cette affaire, après, ils ne voient les négociations que pratiquement une fois qu'elles sont...
Qu'elles ont
bien avancé. Ils lui ont donné, en quelque sorte, carte blanche pour négocier. C'est quelqu'un qui est un libéral. Bon, et quand vous êtes libéral... Il faut quand même rappeler que vous êtes favorable au libre-échange. Bon, c'est assez normal. Vous dites, mais pourquoi ça va nous rapporter tant, 1,50€ par jour, etc. Parce que les libéraux croient au libre-échange, mmh. parce qu'ils croient aux théories de Ricardo, donc à la théorie des avantages comparatifs, mmh. et ils se disent que plus les nations échangent entre elles, plus elles s'enrichissent toutes.
Sûr.
C'est les Britanniques qui, au XVIIIe siècle, vont vendre des textiles à l'Inde, et l'Inde qui va vendre du thé au Royaume-Uni. Donc les Britanniques seront particulièrement efficients quand il s'agit de fabriquer du textile. Ils le feront mieux que n'importe quel autre pays. Et les Indiens seront particulièrement efficients quand il s'agira de fabriquer du thé. Donc la prospérité régnera pour tous, puisque chaque nation fera... le maximum de ce qu'elle fait le mieux.
D'accord. Tu as une question, François?
Bah, vous m'avez un peu laissé en plan avec mon anecdote de Gucht, ouais. 545 euros. Ah,
c'était pour présenter.
Bah ouais, non, mais.
Tu as raison. Non, il faut revenir parce qu'on va essayer de tenir le fil.
Karel de Gucht s'est retrouvé dans l'embarras. Il avait promu ce chiffre de 545 euros. Et sur la base de révélations, donc, le 31 mars 2014, ou plutôt le jour suivant, donc ça fait le 1er avril 2014, lors d'une réunion de la Commission, un député européen, Yannick Jadot, lui pose la question, mais d'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Et la réponse mérite vraiment d'être visionnée. J'invite vraiment les auditeurs à aller sur le site. Donc, 1er avril 2014. La réponse de Gucht, je la cite. On peut pas chiffrer ça à quelques euros près. Moi, je ne le fais pas. Il a passé son temps à le faire. Et les sommes qu'il avançait jusque-là, l'interroge-t-on? Il explique, vous savez, il y a une étude qui dit que chaque ménage va en retirer 545 euros par année. Moi, je ne sais pas comment on peut arriver à ces chiffres, donc je ne les cite que très rarement. Oui, comment l'histoire se réécrit en direct.
C'est magnifique, c'est de la poésie.
Je crois que le calcul est assez simple, 0,5% de croissance, au doigt mouillé quand même un peu. Grâce à l'allègement des charges et de tout ce qui n'est pas nécessaire au commerce, vous nous expliquerez ce que c'est, divisé par le nombre de foyers en Europe, enfin donc 119 milliards d'euros, divisé par le nombre de foyers en Europe, 545. Ça paraît assez simple, non?
Ils ont travaillé.
C'est des règles de trois.
Ouais, c'est vrai. Ils bossent.
Carré de Gucht est dans le studio.
Non, mais il reprend les chiffres.
Moi, je reprends les chiffres. Ouais, alors, d'ailleurs, je note qu'aux États-Unis, eux, ils sont à 95 milliards avec cette évolution-là. Et donc, par foyer, c'est 650 euros. Non, euros. Ça reste en euros. Donc, en fait, il vaut mieux être américain quand même. Mais bon. Karel de Gucht ne l'a peut-être pas dit.
Bon, les 0,5% de croissance, c'est à peu près les écarts de croissance entre deux prévisions de l'OCDE ou de l'Union européenne pour les trois mois à venir. Ce qui signifie que la capacité de prévoir la croissance trois mois à l'avance est déjà très médiocre par les temps qui courent. Quant à savoir ce qu'elle sera dans 20 ans si toutes les barrières au libre-échange sont balayées, on peut avoir des doutes sur la conclusion.
Oui, c'est la marge d'erreur. Quoi.
C'est la marge d'erreur, mais c'est une erreur qu'on a déjà observée dans le cas du marché unique européen et dans le cas de l'accord latino en Amérique du Nord, l'ALENA, où là aussi il y avait des promesses de millions d'emplois qui étaient des emplois qualifiés, qui enrichiraient le travailleur aux États-Unis en lui permettant de monter en gamme, qui créeraient des tas d'emplois au Mexique. Et ça ne s'est produit ni dans le cas des États-Unis, ni dans le cas du Mexique, parce que les emplois peu qualifiés que les Mexicains ont obtenus ont assez vite été délocalisés ailleurs où c'était encore moins cher, notamment en Asie et en Chine dans une première étape.
Je trouve que, d'ailleurs que ce chiffre de 0,5 million il est un peu inquiétant vis-à-vis de l'autre discours que vous notiez déjà quant à tout ce qui nous a été servi pour tous les autres accords. Rien qu'en Europe, d'habitude, c'est de l'ordre de 2 à 3% de croissance.
Absolument.
Là, on est à 0,5. On dirait qu'on se moque du monde, là. Qu'est-ce que c'est?
Très bien. Donc, un des points d'achoppement, c'est vraiment un des points, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est quand même les problèmes de règlement des différents commerciaux qu'il y aura entre les entreprises, les multinationales et l'État. Donc, les multinationales qui sont, on va dire, derrière, qui poussent pour que cet accord soit le plus vite possible accepté, validé par la Commission. Que va-t-il se passer? Donc, si jamais un multinational, je sais pas, vous avez trouvé une nouvelle multinationale, je crois, c'est l'anagramme de Monsanto, il me semble. Mais on en reparlera après parce que c'était très drôle. Ces multinationales, bon, par exemple Monsanto, allez, on y va, qui voudraient tranquillement vendre ses OGM et diffuser ses produits chimiques pour son bien, pour vendre, quoi, pour faire un peu d'argent, ce qui est légitime dans une société capitaliste. Qu'est-ce qui va se passer si l'État dit non, là, quand même, vos produits chimiques, ça tue tout, on peut pas vous laisser faire ça?
On sait ce qui se passera parce qu'on sait ce qui se passe déjà actuellement au sens où les règlements des différents états entreprises, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui quotidiennement. Il y a pas mal de procès, plusieurs dizaines de procès qui sont actuellement en cours dans le monde entre des multinationales qui ont attaqué des états. Et c'est effectivement un des chapitres, comme on appelle ça, qui pourrait être introduit dans le GMT. C'est déjà... Donc, c'est-à-dire, c'est le chapitre de la protection des investissements. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une entreprise, quand elle s'implante dans un État, elle est en droit de demander à l'État où elle est implantée, de lui assurer un certain nombre de choses. En l'occurrence, trois. C'est l'égalité de traitement entre les entreprises étrangères et les entreprises nationales. La sécurité des investissements, c'est-à-dire que si qu'un État peut pas exproprier une entreprise, par exemple, comme le Venezuela l'a fait avec le pétrole, par exemple, c'est interdit. Au titre de la protection d'investissement. Et la troisième condition, c'est la liberté de transférer son capital.
Alors en fait, ça peut se faire, sauf que ça va coûter des millions, voire des milliards à l'État.
Un État décide de le faire et qui prend ce risque-là, eh bien, une multinationale peut l'attaquer en justice pour demander réparation. Donc, comment ça se passe?
C'est quelle justice?
Voilà, c'est quelle justice? Donc, c'est un tribunal d'arbitrage. Donc, c'est pas véritablement une justice au sens où il est pas possible de faire appel d'abord, ce qui est contradictoire avec les principes de justice. Et puis, c'est un tribunal qui est abrité par différentes officines. Il y en a un qui est rattaché à la Banque mondiale. Donc, on voit un petit peu le regard pro-business de la chose. Il y en a un qui est rattaché à la Commission des Nations Unies pour le commerce. Il y a plusieurs chambres de commerce nationales, celle de Paris, celle de Londres, qui peuvent juger ce type de cas. Donc c'est ces tribunaux-là que peu de gens connaissent. Ensuite, c'est trois juges qui s'occupent de ça. Il y en a un qui est nommé par la multinationale qui porte plainte. Il y en a un autre qui est nommé par l'État qui se défend. Et le troisième qui est nommé par les deux parties.
Donc, qui est le président.
Voilà. Qui est le président du jury. Donc on voit que c'est un petit monde.
Ça reste entre copains. Bien entendu, c'est un tribunal qui sera au-dessus des États, alors.
Voilà, c'est ça qui a en fait dans le fond d'affaire qui est assez intéressant. C'est qu'on se rend compte que c'est en fait un moyen pour les États de peser sur les législations nationales, au sens où il y a plusieurs moyens par lesquels les entreprises essaient de peser sur les lois. On a fait un article dans le Diplo qui s'appelait « Comment les cabinets d'avocats écrivent les lois » et qui montre tout le travail des entreprises pour faire du lobbying. Les grands groupes pharmaceutiques font du lobbying auprès des députés pour faire passer certaines législations, etc. Mais ce qu'elles réussissent pas par la voie de l'Assemblée, eh ben maintenant elles peuvent le réussir par la voie de la justice. au sens où eh bien elles attaquent
donc, c'est très américain comme fonctionnement déjà.
C'est très américain parce que du coup une entreprise fait enfin apparaît comme un être humain, enfin comme une personne morale, il y a une sorte de confusion entre personne morale et personne physique qui permet donc aux états aux entreprises d'attaquer des états. Et donc il y a plein de cas totalement
on peut en citer hein.
Voilà,
on
en a quelques-uns hallucinants. Il y a une entreprise italienne qui a porté plainte contre l'Afrique du Sud parce que il y avait un programme qui favorisait les Noirs dans un certain secteur de l'économie en Afrique du Sud, et les Italiens, considérant que favoriser les Noirs allait à l'encontre justement de l'égalité de traitement entre entreprises étrangères et entreprises nationales, ont porté plainte contre l'Afrique du Sud pour faire en sorte que les Noirs, qui représentent 80% de la population en Afrique du Sud, mais à peine un quart des richesses, eh bien, n'aient pas davantage de ce type-là. Il y a aussi...
Au Sri Lanka, là, il y a une exemple récent, qui a dû verser 60 millions de dollars à la Deutsche Bank en raison de la modification d'un contrat pétrolier.
Donc voilà, c'est une concession sur plusieurs années, et puis ils ont voulu la changer au bout d'un certain temps, et comme ça là à l'encontre de l'investissement de la Deutsche Bank, eh bien ils ont attaqué et ils ont obtenu 60 millions.
Sans appel.
Donc ils ne gagnent pas toujours, parce que assez souvent, eh bien ça s'arrête avant le terme du procès et ils s'arrangent. Et la manière de s'arranger, la plupart du temps, c'est que l'État finalement finit par céder ou par lâcher un petit peu de lest, ce qui fait que l'entreprise retire sa plainte et puis
notamment
s'en sort
tout
à bon compte.
Tout ce qui risque d'être de l'ordre de protection sociale ou de l'environnement, j'imagine plus facilement que tout ce qui est
toutes les normes,
tout ce qui est plutôt l'argent ou lié à l'argent quoi.
Et on voit bien comment ce dispositif permet de mettre en place ce qui avait été décrit comme des effets de cliquet. Donc une fois qu'un système comme ça est en place, c'est très difficile de revenir en arrière. Une fois que vous avez privatisé, bon, jusqu'à maintenant il y avait toujours la possibilité de renationaliser des ressources, mais si vous devez verser des sommes aussi importantes que celles dont on est en train de parler, bien vous y songez à deux fois, parce que si ça constitue une saignée pour la population qui vous a conduit au pouvoir, et vous avez besoin du soutien de cette population pour œuvrer à votre programme, y compris peut-être de transformation sociale, mais là vous vous retrouvez vraiment dans une situation extrêmement délicate.
La malédiction des investisseurs, c'est le risque. Oui. Ils aimeraient bien avoir les profits de l'investissement, mais sans le risque.
Ce qu'ils ont déjà quand même pas mal déjà fait.
Mais jusqu'à une date récente, jusqu'à il y a quelques décennies, il y avait toujours un risque politique. Les majorités parlementaires pouvaient changer, décider quel secteur de l'économie allait être nationalisé ou devrait être régi par des règles particulières qui réduiraient les profits de l'investisseur. Ça, c'est pas possible pour l'investisseur.
C'est une prise de risque trop importante pour lui, peut-être, qui dépend pas de ses pouvoirs.
Donc, l'avantage de cet accord, mais c'est un peu ce que prévoyait l'AMI il y a une quinzaine d'années, c'est de veiller à ce que le risque politique que prend un investisseur privé disparaisse, en imposant aux autorités politiques, comme vient de le rappeler Renaud Lambert, des pénalités telles que les autorités politiques y regardent à deux fois. Et quand on évoquait tout à l'heure les tribunaux arbitraux, que c'est une notion qui est peut-être un peu confuse dans l'esprit des auditeurs, jusqu'au moment où vous leur précisez, en un mot, tapis. Tapis, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, d'accord. Exactement.
Donc on peut rappeler l'affaire Tapis, où il a touché 475 ou 50 millions de dommages et intérêts. Enfin, il y a une partie dommages et intérêts de remboursement suite à un arbitrage. Et des personnes qui ont été désignées par des copains. Enfin, voilà, c'est un petit arrangement. Je crois que c'est un peu remis en question ces derniers temps, là, mais c'est encore très loin d'être résolu.
Moi, je voudrais juste...
Oui, vas-y, Benoît.
Dans le sens de Renaud, au sens où vraiment ce processus permet de mettre à plat toute forme d'audace politique, parce qu'on se rend compte que les États qui ont été les plus souvent attaqués, eh bien, par exemple, ça a été pendant assez longtemps le Venezuela, qui a eu plusieurs dizaines de procès, parce que pour les réformes de nationalisation du secteur pétrolier, etc., de programmes sociaux, d'augmentation du salaire minimum, eh bien, il y a eu des plaintes de multinationales, et plusieurs dizaines de plaintes, et tous les pays aussi qui se retrouvent dans une situation d'instabilité, par exemple l'Argentine au moment de la crise financière du début des années 2000.
C'est le pays qui a le plus subi.
C'est le pays qui a le plus subi, et aujourd'hui les pays qui subissent le plus, c'est la Libye et c'est l'Égypte, parce que sous prétexte que l'insécurité dans ces pays nuit au bon déroulement des affaires, on se retrouve à ce que ce soit aujourd'hui les deux pays les plus attaqués par des multinationales.
Le problème au final, c'est que les gouvernements vont s'auto-censurer, vu qu'ils n'ont même plus ces prérogatives qu'ils ont eux-mêmes abandonnées, quand même, dans le cas de l'Europe.
Exactement, je pense que c'est ça le risque, c'est à la fois un contrôle en aval, c'est-à-dire de sanctionner, d'attaquer quand il y a des dispositions qui sont prises et qui conviennent pas aux entreprises, mais également une autocensure en amont, où quand on sait, et en plus il faut préciser que non seulement il y a les amendes qui sont colossales, mais que pour un État, le coût d'une procédure quand il est attaqué par un État comme par une multinationale est lui aussi colossal, et il y a des fois des plaintes qui sont faites de manière totalement frauduleuse ou totalement infondée. Abusive, voilà.
Ça peut devenir un business d'ailleurs de porter plainte.
Exactement. Et donc pour les avocats, c'est un business gigantesque. Moi, j'ai fait cet article avec Martine Bullard et on se rendait compte. Moi, j'ai vu des trucs, on voyait des trucs que j'ignorais totalement. Par exemple, il y avait des cabinets d'avocats qui étaient spécialisés dans le fait de conseiller. Parce qu'on peut attaquer une entreprise quand il y a un accord bilatéral d'investissement, c'est-à-dire par exemple la France et la République tchèque. Ou l'Égypte et la Tunisie, ou je ne sais quoi.
Alors, si je peux citer un bout de votre article, avec Martine Bullard. Ouais. Vous dites, pendant la guerre civile libyenne, l'entreprise britannique, alors Fredgefield, moi j'ai pas l'accent, de cause Derringer, on va le dire, conseilla par exemple à ses clients de poursuivre Tripoli au motif que l'instabilité du pays générait une insécurité nuisible aux investissements.
Voilà.
C'est beau, hein, c'est
exactement.
Magnifique, c'est de la poésie.
Et donc, il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans le fait de conseiller aux entreprises de s'implanter dans certains pays spécifiquement. Parce qu'ils ont des traités bilatéraux d'investissement, que ça leur permettra d'attaquer plus vite. Et j'avais un exemple, je crois qu'on ne le cite pas dans l'article, mais d'une entreprise détenue à 80%, 98% par des Ukrainiens, qui a été implantée en Lituanie, parce que la Lituanie et l'Ukraine ont un traité bilatéral d'investissement, de manière à pouvoir attaquer l'Ukraine. Ce qui fait qu'une entreprise détenue à 98% par des Ukrainiens a fini par attaquer l'Ukraine uniquement par des tours de passe-passe qui leur a permis de se domicilier en Lituanie.
Après, on peut aller plus loin avec des multinationales qui peuvent être, bon, c'est rarement dans ce sens-là, mais qui pourraient être instrumentalisées par des États pour affaiblir un autre,
etc. C'est assez drôle.
Bon, là, on va chercher loin, mais c'est ça, après tout, pourquoi pas.
Il y a aussi des cas d'entreprises qui sont domiciliées dans plusieurs pays, de manière à pouvoir, pour la même justification, attaquer plusieurs fois le même État en justice, sous des noms différents. Enfin, il y a des trucs assez...
Ça sent bon, hein. Ça sent bon. On va sur... Oui, pardon, vas-y François. Je t'en prie.
Malgré tout, rien que dans le cadre de l'OMC ou des accords bilatéraux, il y a déjà ces systèmes d'arbitrage.
Voilà, il y en a... Aujourd'hui, il y a 3000 accords bilatéraux d'investissement ou dans des traités de libre-échange, donc il y a 3000 possibilités en quelque sorte. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'accords bilatéraux de libre-échange entre la France et les États-Unis, ou entre les grands pays européens de l'Ouest, disons, et les États-Unis, alors que la plupart des pays d'Europe de l'Est, eux, ont des accords, enfin des anciens pays de l'Union soviétique, ont des accords bilatéraux d'investissement avec les États-Unis. Ben, du coup, tous les pays d'Europe de l'Ouest, qui comptent un nombre de multinationales assez, assez important, se retrouveraient possiblement concernés. Donc du coup voilà, il y en a déjà 3000, mais ça ferait des milliers de possibilités en plus, enfin des centaines de possibilités en plus de procès.
Parce que ce qu'on voit dans votre, enfin dans le graphique, sur la carte qui apparaît dans Le Monde diplomatique, il faut rappeler aux auditeurs que c'est pas seulement les entreprises américaines qui sont prédatrices dans ces cas-là, mais les entreprises européennes. Il y a des exemples de Veolia et d'autres choses. Hein,
voilà,
on dépasse le cadre national.
C'est surtout des entreprises occidentales. Bon, déjà, il faut avoir des moyens. Hein, comme je le disais, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros de gérer un procès comme ça pour une entreprise. Donc, ce n'est pas la petite pizzeria du coin qui va attaquer. Donc, il faut des moyens. Donc, ce sera surtout des entreprises, des multinationales du Nord qui attaquent des pays du Sud, mais pas seulement, parce qu'il y a plein de cas d'entreprises canadiennes qui ont attaqué les États-Unis ou d'entreprises américaines qui ont attaqué le Canada. Donc, c'est plus les entreprises contre les États que le Nord contre le Sud ou l'Europe contre les États-Unis.
On pourrait peut-être traduire ça contre le capital contre les États ou contre...
Moi, j'osais pas le dire.
Moi, bon, on va...
Radio Libertaire, je crois qu'on peut.
On peut se permettre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on n'aura pas de souci avec la direction, vu qu'il n'y en a pas.
Alors, oui. Mais moi, je me pose une question quand même. Je vais faire du mauvais esprit. Mais peut-être que cette organisation va nous rendre tous bisounours, qu'on ne se tapera plus sur la gueule, que tout le monde sera à peu près au même niveau, que... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On n'osera plus revendiquer, on n'osera plus, dans un sens ou dans l'autre, parler du Venezuela. Mais ça peut être aussi d'autres dictatures, par exemple. Parce que lorsqu'un pays est suffisamment déstabilisé pour gêner ses entreprises, est-ce que, justement, le fait que cet accord existe ne va pas, justement, réduire le risque de prise du pouvoir par des personnalités peu recommandables.
C'est-à-dire que quand on sera tous esclaves des multinationales, il y aura la paix.
Ça, il y aura la paix générale.
D'accord.
Le GNT, c'est la paix.
Voilà. Tu aurais dû travailler pour eux.
Mais c'est vraiment délicieux. Une autre question, on écoute Michel Buller après, une chanson qui s'appelle Mondialisation. Ça tombe très bien. Ça se décide où, tout ça? Et est-ce qu'il y a un creuset, est-ce qu'il y a un endroit, quelque part, où les gens se réunissent, font des trucs ensemble, etc.? Où c'est complètement diffus, c'est un espèce de réseau neuronal très très diffus entre les États.
Non, il y a des négociateurs désignés de part et d'autre de l'Atlantique. Donc il y a le ministère du Commerce américain, et oui. Puis vous avez la Commission qui a reçu un mandat officiel de la part des États pour travailler à ces négociations, et qui régulièrement retrouve les représentants de Washington. Récemment, c'était en Virginie, si je me trompe pas, à la fin du mois de mai, et voilà, leurs travaux se poursuivent de part et d'autre de l'Atlantique, un coup chez l'un, un coup chez l'autre.
D'accord. Michel Buller.
Allez, musique.
On
se retrouve dans 5 minutes.
Vous pouvez téléphoner pendant ce temps.
01 43 71 89 40.
Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins. Tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation. Là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons. Après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh bien, on va rien venir avec Marcel et Roger. L'un qui est des cadres et l'autre petit paysan moyen. Qu'on a restructuré, fusionné, redéployé. Et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé. Qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé. Mais pourquoi sont fermés l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qui arrive dans un patelin, Marcel. Qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire. Et qu'il y a des pays où les exclus vont bien. Où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer. Où le quart monde y bord la vie à belles dents. Comment? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel y pète les plombs depuis qu'il a plus ses champs. Et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme. Un poney chez Picra qui fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau, tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares ont du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient. Mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me gratte, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard. T'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne, là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes, qui bossent 12 heures par jour, pour un dollar à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là leur projet retour deux siècles en arrière. Et pas qu'au Bangladesh tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous, de minables salaires. Mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y'a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambo. L'or me dit plus que demain, on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. Là qu'aujourd'hui, ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui est des blancs, suisses, quoi, normal. Tout devient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain.
Très bien. Donc, de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4, une émission consacrée, spéciale consacrée au TAFTA ou le TAFTA, GMT, etc. Donc, on vous a expliqué tout à l'heure ce que c'était. En présence du Politburo du monde diplomatique, en la personne et en les personnes de Serge Halimi, de Renaud Lambert et de Benoît Bréville. Et là, j'ai une question pour Serge Halimi. Donc, quid des services publics, une fois que ce superbe GMT ne veut pas répondre, hein, s'il veut faire passer la balle ou pas, une fois que le GMT aura été certainement accepté, à moins qu'on trouve des solutions pour l'empêcher.
Renaud.
Ouais, ben, quid des services. La question des services publics se pose dans le cadre du GMT. Ouais. Bon, elle se pose aussi en dehors du cadre du GMT. On sera peut-être amené à en parler plus tard, parce que le GMT nous apprend aussi beaucoup de choses sur le projet que nous concoctent nos amis à Bruxelles. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé.
Nos amis, c'est la Commission ou c'est le Parlement ou les deux?
Un petit peu les deux, mon capitaine, quand même.
D'accord.
Pardon. Et indépendamment du GMT, l'Union européenne a récemment remis une décision concernant une entreprise française dont j'oublie le nom, les auditeurs voudront bien m'en excuser, mais expliquant qu'en gros, la Commission se dit disposée à intervenir à chaque moment où l'État français intervient dans une entreprise pour assurer le fonctionnement d'un service public. Mmh. Donc GMT ou non, les services publics sont menacés. Mmh. Alors dans le cadre du GMT, bon, on a tout à l'heure évoqué toutes les promesses que l'on nous faisait, notamment les 545 euros, que j'ai bien compris, ici, on ne souhaitait pas voir arriver dans la poche des citoyens européens. Mais il n'y a pas uniquement ça dans ce que nous promet le GMT. On a beaucoup parlé des poulets à la chlorine, et de tout un tas de cochonneries qu'on pourrait voir arriver dans
hormones,
voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ce qui nous préoccupe au monde diplomatique comme un radio libertaire. Mais on est aussi assez intéressé par ce que prépare quelque chose comme le GMT sur les conditions de travail, sur les normes. Mm-hmm. Et il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles le patronat américain est intéressé par le GMT, c'est que Washington a été beaucoup plus efficace que Bruxelles pour la réglementation du secteur de la finance. Ils n'ont pas été extrêmement audacieux, mais ils ont fait beaucoup plus. Wall Street voit d'un très bon œil une harmonisation. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est négociateur, harmonisation s'entend toujours vers le bas. Donc, harmonisation vers le bas des règles qui encadrent l'exercice de la finance. Du côté européen, où le patronat est très mobilisé, on est intéressé par les réglementations dans le domaine du travail aux États-Unis. Et il faut savoir que les États-Unis n'ont pas signé tous les protocoles de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et évidemment, le principe de libre concurrence interdirait à Bruxelles d'imposer à des entreprises une réglementation du travail plus contraignante que celle que l'on voit appliquer à Washington. Donc là, vous avez, si vous voulez, une espèce de jeu, pour le coup gagnant-gagnant, entre patronat européen et patronat américain, où chacun va piocher dans la besace de l'autre ce qui lui convient le mieux. Et évidemment, inutile de dire que dans ces conditions, les services publics ont pas un très grand avenir.
Ni les salariés, ni le code du travail d'ailleurs, parce qu'il va certainement aller à l'encontre des intérêts et des accords. Parce que le code du travail, c'est pas possible. Enfin, ça me paraît, c'est pas concurrentiel, sans dire concurrentiel.
Je crois qu'on peut rien vous cacher.
Voilà. Non, mais je sais pas. Je pose la question. Moi, je m'informe. Hein.
Il faut peut-être évoquer dans le cadre de la France le fait que des autorités comme le ministère des Étrangères, Laurent Fabius, le ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, le président de la République ou le Premier ministre, ont dit que l'un des avantages de ce traité, ils sont pas tous enthousiastes, mais il y a quelque chose auquel ils tiennent beaucoup, qui est la mise en cause des dispositifs qui existent aux États-Unis sous le nom de Buy American Act.
D'accord.
Il y a un certain nombre de municipalités, d'États, qui décident d'engager des ressources publiques pour relancer leur économie et qui, en général, entendent bien que ces ressources publiques soient davantage utilisées dans la communauté qui engage ces ressources qu'au service d'importateurs étrangers. Donc il y a des règles qui sont parfaitement compréhensibles, qui visent à réserver ces emplois, ces travaux d'infrastructure, à des fabricants locaux. Des fabricants locaux, c'est un peu la théorie des circuits courts.
C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis.
C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. Et en vertu de cet accord, de ce grand marché transatlantique, s'il parvenait à son terme, ces dispositifs-là seraient remis en cause. Parce que naturellement, ils contreviennent aux règles du libre-échange et de la libre concurrence. Donc je sais bien que c'est pas le premier paradoxe dans ce genre, mais on voit un gouvernement nominalement socialiste qui cherche à se battre contre un certain nombre de dispositifs progressistes qu'ont obtenus aux États-Unis des municipalités plutôt de gauche, appuyées par les syndicats du CRU. Ce gouvernement socialiste se réclamant, lui, des principes de la concurrence libre et non faussée. C'est pour juste rappeler ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Ça n'est vraiment pas un débat qui oppose les méchants américains aux gentils européens. Il y a eu cette couverture de Marianne où
les Américains vont nous bouffer.
Voilà, les Américains vont nous bouffer. Les Américains parfois sont autant. D'ailleurs, c'est ce que le dossier évoque en soulignant les menaces que ce traité ferait peser sur les États-Unis. Les États-Unis sont autant en position de victime que l'Union européenne, mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont les populations qui sont en position de victime et les grosses entreprises et les multinationales qui sont en position de bénéficiaires éventuels.
Et le prédateur, enfin, pour résumer, pour faire court, ça va être les riches contre les pauvres, encore une fois. Donc tous les pauvres.
C'est pas assez complexe.
C'est un peu simpliste, mais on a un auditoriat très large. Donc voilà, c'est un peu manichéen, mais disons que les pauvres, unissez-vous, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Contre les riches européens et américains, ce sera peut-être le meilleur moyen de les freiner un petit peu. Je reviens à vous, Renaud, puisque dans votre article, vous parlez d'un certain Marcello
Odebrecht, ouais.
Odebrecht, d'accord.
C'est pas n'importe qui. Hein.
Ça peut l'air d'être n'importe qui. Puis alors, notamment, il a déclaré une chose qui était assez amusante. Alors, je l'ai noté. Il dit par exemple que si nous appliquons les normes américaines sur le travail aujourd'hui, cela serait considéré comme de l'esclavage. Par la loi brésilienne, par exemple.
Ça vous a étonné.
Ça m'a un peu surpris, oui.
Donc, il y a un point commun entre vous et les participants à cette réunion. Parce que je peux vous garantir que quand il a prononcé ces mots, Marcello Odebrecht, qui est l'un des plus grands patrons brésiliens, lorsqu'il a prononcé ces mots, on a entendu des mouches voler. Et la personne qui s'occupait de faire passer la parole lui a dit « Comment est-ce qu'on a bien compris ?» Oui, en effet. On lui demandait à ce monsieur quel serait l'impact de la signature d'un accord comme le GMT entre Washington et Bruxelles. Quel serait l'impact de cet accord sur un pays comme le Brésil? Donc il faut rappeler le contexte. Hein. On parle, à partir du moment où on commence à communiquer sur le GMT, on explique aux salariés européens qu'il y aura une harmonisation. Mais quand on parle aux salariés, l'harmonisation s'entend vers le haut nécessairement. Et donc on leur explique que l'harmonisation se fera vers le haut. Et lui, il nous explique que si d'ores et déjà on appliquait la réglementation du travail aux États-Unis, eh bien ça serait considéré comme de l'esclavage au Brésil. Alors il faut dire que la réglementation du travail au Brésil est plutôt compliquée. Mais ce monsieur Odebrecht, par ailleurs plutôt proche du PT, le Parti des Travailleurs au pouvoir, voyez pas d'un mauvais œil une simplification dans le cadre d'une harmonisation par le bas de la réglementation du travail au Brésil,
par hasard,
sous l'influence de cet accord. Parce qu'il faut bien, voir, c'est peut-être l'un des aspects importants du GMT, c'est que bon, ça concerne les États-Unis, c'est un grand pays, ça concerne l'Europe, c'est une grande région, mais l'ambition du GMT, c'est d'imposer ses normes, son mode de fonctionnement au reste du monde. C'est-à-dire que lorsque vous avez États-Unis plus Europe, vous avez le plus grand marché mondial, vous avez une capacité d'influence absolument énorme, et donc vous irradiez un petit peu sur le reste de la planète. C'est l'un des aspects que traite Serge dans son papier.
Donc Serge Alimi.
Mais c'est très bien de faire ça pour le. On est quoi? C'est le 60e anniversaire ou le 70e anniversaire du débarquement? Parce qu'on a eu l'occasion d'une immense fête transatlantique. On a rappelé la solidarité qui nous unissait à nos cousins américains qui sont venus nous libérer. Certes, un peu plus tard que nos moins cousins soviétiques qui avaient fait quelques efforts militaires valeureux, qui ont été moins évoqués mais valeureux aussi. Alors là on a en quelque sorte la concrétisation commerciale de ce cousinage entre les États-Unis et l'Europe. Et ça conduit un certain nombre de stratèges à aller beaucoup plus loin que les quelques euros d'économie misérable dont on nous a parlé tout à l'heure, pour avoir un grand projet de civilisation qui est celui-ci. Les États-Unis sont une puissance dont le taux de croissance n'est plus ce qu'il était. L'Europe non plus. Au même moment, quelles sont les puissances qui galopent très très grande vitesse?
Donc la Chine, évidemment.
La Chine, voilà. L'Inde, les puissances émergentes. Et à terme, il est certain que les États-Unis ne retrouveront jamais les rythmes de croissance que la Chine et l'Inde connaissent en ce moment. Et l'Europe, pas davantage. Alors que faire? Que faire pour ne pas être rattrapé?
C'est la tarte à la crème qui, voilà, nous est toujours sortie. Voilà. C'est-à-dire, il faut se protéger.
Il faut s'unir.
Il faut s'unir. Voilà.
C'est déjà le discours qu'on tenait pour
faire
la
peur,
France, donc. Le Royaume-Uni, l'Allemagne. Oui. L'union fait la force.
Oui.
Et ben là, contre l'Union européenne, ça ne suffit pas. Et là, l'ALENA, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que l'Europe et l'Amérique du Nord s'unissent. Et si elles s'unissent, c'est ce qu'évoquait Renaud tout à l'heure, il y aurait un marché tellement important qu'il pourrait imposer ses normes à tous, et donc à la Chine et à l'Inde.
Ce qui redonnerait le pouvoir.
Voilà, ce qui redonnerait le pouvoir à ceux qui sont en position de le perdre. Et là, il faut voir que c'est un propos qui est tenu de manière tout à fait explicite par les décideurs américains, puisque on en cite quelques-uns dans le dossier, et l'un d'entre eux qui dirige un centre de recherche à Harvard et qui est un ancien diplomate au département d'État explique, je le cite, on voit monter ces émergents qui constituent un danger pour la civilisation européenne. Alors là, je disais, c'était pas du tout un universitaire américain, là. C'est un ancien Premier ministre français qui dit ça, François Fillon. Mais les discours sont interchangeables, vous allez voir.
Évidemment,
on se raccroche, on se récupère comme on peut. Et donc, François Fillon, disons, un danger pour la civilisation européenne. Et nous, notre seule réponse serait de nous diviser. C'est une folie.
Évidemment.
Bon. Et lui faisant écho, Alain Lamassoure, qui vient d'être élu député européen, expliquait que le grand marché transatlantique allait permettre aux alliés de se mettre d'accord sur des normes communes pour les imposer ensuite aux Chinois.
Très
Donc c'est ça. C'est aussi ça l'idée stratégique. Et pour en revenir à mon expert de Harvard, ancien diplomate, lui expliquait. À moins que ces deux moitiés de l'Occident ne se réunissent, donc l'Europe et l'Amérique du Nord, formant un ensemble dans les domaines de la recherche, du développement, de la consommation et de la finance, elles vont l'une et l'autre perdre du terrain. Les nations d'Orient dirigées par la Chine et l'Inde dépasseront alors l'Occident en matière de croissance, d'innovation et de revenus, et pour finir, en termes de capacité à projeter une puissance militaire.
Donc ce serait une finalité.
Voilà, donc toutes les menaces sont en quelque sorte en potentiel explosif s'il n'y a pas cette union entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Parce que la différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est que du côté de l'Asie, la Chine et l'Inde sont peut-être des puissances en croissance rapide, mais elles connaissent un handicap formidable. C'est qu'elles ne peuvent pas s'allier, parce que ce sont deux pays qui ne s'entendent pas.
Pour l'instant, probablement pendant quelques décennies.
La Chine est donc une puissance émergente, mais qui a ce formidable handicap d'être encerclée par des pays qui ne l'aiment pas. Qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse des Philippines, qu'il s'agisse de l'Inde, qu'il s'agisse du Japon, bien sûr.
Encore plus le Japon.
Donc le vrai atout maître que nous avons, nous occidentaux, qui défendons la démocratie, comme chacun
bien
sait,
sûr, bien sûr.
C'est précisément qu'on peut s'allier entre nous. On a des taux de croissance qui sont plus faibles, mais un potentiel d'alliance qui est plus fort. Eux ont des taux de croissance qui sont plus faibles, mais un potentiel d'alliance qui est plus faible. D'où la nécessité de ce grand marché transatlantique qui nous permet de capitaliser sur les forces qui restent à notre disposition.
D'accord.
Est-ce que ça ne vient pas en parallèle de ce que l'OTAN est déjà, finalement? Parce qu'en fait, il y a toujours un préalable militaire, historique, vous le rappelez, dans les articles.
Là, on aurait une forme d'OTAN commerciale. D'autant, nous dit-on, que si les États-Unis et l'Europe perdent leur potentiel économique, leur puissance économique, leur supériorité économique au profit de la Chine et de l'Inde, vraisemblablement l'étape ultérieure sera la puissance militaire qui bénéficiera aux nouvelles puissances économiques. Il s'agit donc de maintenir la supériorité, la suprématie occidentale en renforçant l'union entre les deux composantes de cette nation occidentale.
Benoît Abreville.
Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les États-Unis jouent en plus non seulement la carte de l'Europe, mais jouent aussi la carte du Pacifique dans le cadre, pour tenter d'isoler la Chine.
Bah, le Japon, ça fait
Oui, c'est un allié des États-Unis.
C'est un allié très fort des États-Unis.
Bien sûr. Mais surtout, il négocie parallèlement un autre traité de libre-échange dont on ne parle pas du tout en Europe, mais dont on parle beaucoup plus que le traité transatlantique aux États-Unis. Et c'est ce qui intéresse beaucoup plus la presse, les think tanks, les multinationales, etc., qui est le traité de libre-échange transpacifique.
D'accord.
Que les États-Unis voulaient à la base signer avec une trentaine de pays. Ce serait allé depuis le Canada jusqu'à l'Argentine, en passant par le Vietnam.
D'accord.
Non, parce que le Vietnam, le Japon, etc., etc. C'était censé être la plus grande zone de libre-échange au monde.
Mais pas la Chine.
Voilà. Il y avait tous les voisins de la Chine.
Une puissance du Pacifique aussi.
Oui, mais c'est une mauvaise foi, ça. C'est le Pacifique selon les Américains.
Voilà. Et là, petit à petit, il y a beaucoup de pays qui ont compris qu'ils n'avaient pas tellement intérêt à s'associer avec les États-Unis dans ce cadre-là, notamment l'Argentine qui a eu sa ration de procès ces derniers temps, etc. Donc qui ont décidé donc là, il y a une bonne dizaine de pays qui continuent à négocier. Ils en sont, je crois, au 25e round de négociation. Donc Renaud évoquait tout à l'heure les allers-retours entre Bruxelles, la Virginie, etc. Eux, ça fait genre 3 ou 4 ans que il y a tous les 4 ou 5 mois un nouveau round de négociation pour essayer de faire passer ce partenariat transpacifique. Donc c'est dire effectivement à quel point les États-Unis jouent cette carte d'isolement de la Chine et puis d'extension du libre-échange à toute la planète. Et si les deux traités sont signés, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, les normes qui s'appliquent à l'est de l'Europe s'appliqueront aussi en Asie, du côté du Vietnam, par jeu de domino et inversement.
J'ajoute que la réflexion stratégique des Américains se double aussi d'une réflexion historique qui consiste à dire qu'on n'est jamais passé d'une hégémonie à l'autre sans la case guerre.
Guerre, oui, c'est ça, c'est le conflit.
Bon. Donc le seul moyen d'éviter la casse-guerre, c'est que l'hégémonie ne change pas en quelque sorte.
Ça se tient, le raisonnement se tient.
Le raisonnement se tient. Bon,
ça arrange pas tout le monde peut-être.
Vous avez une réflexion stratégique, vous avez une réflexion historique, et puis vous avez cette métaphore qui est assez formidable, qui est la suivante. Le producteur qui a du mal à vendre une marchandise donnée sera souvent conduit à fusionner avec une société étrangère pour élargir son offre et accroître sa part de marché, comme Procter & Gamble l'a fait en acquérant Gillette. Mmh. Point. Les États font face à des incitations du même ordre.
D'accord.
Point. Donc vous voyez, Procter & Gamble, ça doit être, je sais pas, l'équivalent de l'Europe, des États-Unis. Gillette, l'équivalent des États-Unis et de l'Europe. La logique est imparable.
Il faut s'associer.
Il faut fusionner. D'accord. Pour s'emparer d'un marché plus important.
Ah, si on les écoute, oui, c'est imparable. Alors, il y a une définition du droit de l'investisseur, pour revenir plus précisément sur la TAFTA et la GMT. Ça, c'est pour toi, je crois, Benoît. La définition du droit de l'investisseur, alors, entre joue les guillemets, ça c'est superbe, moi j'adorais cette phrase. Droit d'investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il le veut, et d'en tirer les bénéfices qu'il veut. C'est presque de l'anarchisme, d'une certaine manière. Mais si ce n'est que ça dépend de beaucoup de personnes. Donc je me suis dit, ils essaient de nous vendre le truc, mais ça ne passe pas.
C'est de l'anarchisme de droite. Hein.
Voilà. Pour moi, je parle l'investisseur, c'est... Maintenant, j'ai l'impression que c'est le nouveau nom du seigneur. Hein, il y a une espèce de féodalité qui se crée, qui s'organise. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet investisseur? Ou non, tu
Je sais pas, là, en l'occurrence, l'investisseur, surtout dans le cadre de.
Des multinationales.
Cette question, c'est des multinationales.
Voilà.
C'est ça, c'est des entreprises transnationales qui font des affaires un petit peu partout dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle investisseur parce que c'est effectivement beaucoup plus valorisant. Et puis.
C'est comme entrepreneur et patron.
Oui, preneur de risque.
Voilà, c'est. Parce qu'un investisseur apporte de la croissance dans un pays, etc., etc. Et ça passe
prend
beaucoup
des
mieux.
Bah, le preneur de risque fait croire qu'il prend des risques, oui, bien sûr, mais c'est pas lui qui paie de toute façon à la fin. Mais qui va vraiment profiter le crime? Parce que c'est encore un peu. Est-ce que les gens qui sont à la tête des États complices ou de la Commission, etc., ils vont en croquer aussi? Parce que s'ils signent tout ça, c'est qu'on se retrouve quand même face à une soi-disant démocratie. On met des gens plus ou moins en place au Parlement. Bon, la Commission, elle est au-dessus, etc. Bon, ces gens-là, ils sont complices, visiblement, des multinationales, ou en tout cas, ils sont bien orientés par les lobbyistes. Comment on va peut-être pouvoir bientôt pouvoir parler de comment lutter contre la mise en place de ce genre de traité, mais qui sont-ils, comment empêcher que des organes dits démocratiques soient
je crois pas à cette corruption directe. Je crois que les choses se font de manière un petit peu plus subtile. Certes, il y a des hommes politiques qui peuvent, après, une fois que leur carrière politique est terminée, se retrouver à la tête d'une multinationale. Les exemples sont assez nombreux. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Mmh. Et là, maintenant, la rémunération des pantoufleurs s'est beaucoup accrue ces dernières années.
Ils peuvent donner
des conférences. Mais je crois que ce qui se passe plus profondément, c'est que les dirigeants politiques, surtout quand ils sont libéraux, ont complètement intégré l'idée que ce sont les grandes entreprises, les multinationales, qui créent ou qui détruisent la prospérité des nations. Et qu'il faut donc toujours leur consentir davantage de bénéfices, davantage de faveurs, pour qu'ils choisissent tel site industriel. Avant, on appelait ça des pays, mais on peut appeler ça un site industriel, le site France, plutôt que le site Royaume-Uni ou le site Grèce. Donc c'est assez naturellement qu'ils se disent que la politique la plus efficace est une politique qui favorise le plus les grandes entreprises, les multinationales, qui sauront récompenser les responsables politiques qui les favorisent en investissant sur leur site.
Alors ce que je trouve dangereux dans ce qu'on entend là, même si je le partage, c'est que ça va permettre au Front National, par exemple en France, de pouvoir exister, puisque de toute façon, si on voit que les gens qui sont au pouvoir vont donner les clés du camion aux multinationales, le moindre discours qui se veut anticapital ou libéral, qui c'est pas le cas du Front National, on devrait le savoir un peu, mais évidemment c'est l'autoroute pour aller aux manettes, puisque de toute façon les soi-disant de gauche, bon, le PS, je parle même pas de l'UMP, on sait que de toute façon ils vont donner les clés du camion aux multinationales. Donc un parti politique qui va se présenter en disant nous pas du tout, on va pas le faire, on est souverainiste, on va reprendre le pouvoir, l'État va être fort, machin, etc. C'est un discours qu'on peut comprendre, qu'on peut même apprécier, mais quand on sait d'où ça vient, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et comment aussi empêcher...
Pourquoi quand on sait d'où ça vient, il n'y a aucune chance que ça arrive?
Ça peut
venir de nous, ça, je veux dire.
Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas diffusé. Le problème, c'est que c'est le discours du Front National qui est le plus diffusé dans les médias et qui a emprunté une partie de son discours à l'extrême-gauche.
Donc qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on abandonne
le
discours de gauche pour reprendre le discours de Pascal Lamy afin d'être bien distinct du Front National?
On le pratique beaucoup ici. Non, c'est pas pour être distinct, c'est comment arriver à décrédibiliser le Front National, par exemple, et je ne sais pas, parce que là c'est quand même compliqué. Ils arrivent quand même à avoir un peu de pouvoir, ça va devenir dangereux. Ça, je veux dire, c'est pas d'abandonner, c'est comment lutter, par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen déjà de lutter contre le Front National?
Je pense que le meilleur moyen, c'est de ne pas identifier justement la gauche ou ceux qui veulent la transformation du capitalisme avec les avocats de la mondialisation heureuse.
Oui, mais ils ne sont pas les avocats de la mondialisation heureuse. Si.
Non, mais là, en ce moment, il y a beaucoup de partis de gauche. Mmh. Les partis qui seront quand même les mieux représentés au Parlement européen sont des partis qui se disent à la fois de gauche et qui de fait libéraux.
Ouais, le problème, là, c'est qu'ils sont de fait libéraux.
Il faut que les Français et les autres voient qu'à gauche, il y a des gens qui ne sont pas libéraux et qui ne sont pas terrorisés en se disant qu'il faut qu'ils abandonnent des pans entiers de leur discours uniquement parce que, de manière démagogique, le Front National les reprend. Faute de quoi, on n'aura bientôt plus rien à dire sur rien.
Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire que la Terre est ronde, ce qu'ils disent que la Terre est ronde. Et par exemple, on peut être souverainiste et d'extrême gauche ou de gauche. Voilà. C'est que le souverainisme n'est pas réservé au Front National. Bon, ça, c'est un message direct à certains de nos auditeurs.
Parce qu'il me semble que la question qui est posée là sur le Front National et sur les perspectives pour la gauche conduit à tirer peut-être l'une des leçons du GMT. Mm-hmm. Évidemment, il faut voir comment lutter contre, et on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais tout à l'heure, tu nous interrogeais pour savoir quel était le degré de corruption des gens qui étaient aux manettes. Ça existe sûrement.
C'est difficile
sûrement.
De mesurer, mais...
Ça existe sûrement. Mm. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le degré de militantisme des gens qui en ont affaire. Je pense que ce sont des militants libéraux.
Et des idéologues, ils y croient, ils le veulent.
Exactement. Exactement. Bon, ils ont été recrutés parce qu'ils avaient ces dispositions. Mm. Donc ils mettent en œuvre ce en quoi ils croient. Mais avec une audace, une opiniâtreté, une inventivité qui manque parfois à la gauche. Elle n'est pas toujours aux manettes. Elle n'a pas autant de moyens pour mettre en œuvre. Mais il faut quand même observer que récemment, dans la politique, dans l'histoire récente, chaque difficulté, chaque obstacle qu'a rencontré le libéralisme dans son ensemble, la crise financière de 2008, les mobilisations populaires, a trouvé une réponse qui proposait davantage de libéralisme, toujours plus. Et là, on est dans une situation où les économies patinent, le chômage augmente, les inégalités également. Que nous propose-t-on ? Eh bien, davantage de libéralisme.
Ce qu'on nous a mal expliqué.
Exactement. Oui, exactement.
C'est comme l'Europe. Faut plus, c'est comme l'Europe, voilà.
Voilà.
Il faut en rajouter, ça marche pas, il en faut plus, parce que ça marche pas, parce qu'il n'y en a pas assez.
Exactement.
Ça, ça, on l'entend depuis longtemps. Oui.
Alors, bon, parfois la gauche a tendance à se dire, bon, bah, peut-être qu'on s'est trompé lorsque les premiers mauvais résultats arrivent. Et bon, peut-être qu'elle a quelques enseignements à tirer de cette fermeté.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des libéraux plein à la gauche aussi ? Enfin, tu vois, de toute façon que...
Bon, mais sont-ils de gauche ?
Enfin, on sort un peu, sont-ils de gauche ?
La question est posée. On va dire, la réponse est trouvée.
Oui, on la connaît déjà. On l'a trouvée. François, tu as des questions ou quelque chose ?
Oui, mais justement, enfin, en fait, ce débat du TAFTA, il est arrivé il est revenu dans le public français à l'occasion des élections européennes. Mais c'est vraiment parce qu'il y a des partis plutôt souverainistes, enfin, souverainistes, alors faudra peut-être faire attention au terme, des partis attachés à la souveraineté. On ne parle pas du souverainisme du Front National, c'est ces partis-là qui ont bien voulu remettre ça sur le tapis à l'occasion des élections européennes, quoi. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, on a vu M. Lamassoure pointer son nez et décrire ce que vous avez dit, Serge. Mais Madame de Sarnez, UDI, jusqu'à... Enfin, François Hollande, dès février, en fait, il y avait bien ce même fond de tout le centre, alors que tous les partis périphériques, qui de fait, enfin, plutôt extrémistes, hein, même pour les Verts finalement, parce qu'ils sont pas très nombreux, et ils sont quand même à gauche, ils ont essayé de mener le...
Vous voyez, eux, ils sont pas du tout ce que vous appelleriez souverainistes, ils sont même plutôt fédéralistes, et ils ont été... très, très en flèche dans le combat contre le grand marché transatlantique.
Voilà, mais...
Donc, vous voyez, ce lien n'est pas automatique.
Ce que je veux dire, c'est que finalement, ça arrive dans le débat public à travers des biais politiques qui, de toute manière, sont mal identifiés.
Bah, le problème, parce que ça fait assez longtemps quand même qu'il y a des partis politiques qui parlent du traité transatlantique. Je crois que le PC et le parti de gauche, ça fait environ 3 ans ou 4 ans qu'ils ont commencé à dire qu'il allait avoir ces négociations qui allaient commencer à ouvrir vers 2013, etc. Il y a aussi, il y a eu un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui a été signé au moment où se sont lancées les négociations pour celui-là, ce nouveau traité. Et à ce moment-là aussi, tous les partis de gauche, du type le NPA, et les Verts également, etc., en avaient parlé. Alors ensuite, la question, c'est plus quels sont leurs relais pour avoir accès à la parole médiatique, etc. Et puis,
La diffusion des documents aussi.
Parce que la diffusion des documents, compliqué. Mais bon, les documents, en l'occurrence, pour le truc du PC, il y avait une brochure en ligne gratuitement en PDF sur leur site, donc potentiellement c'était accessible à tout le monde.
Mais ça rappelle un peu le mode de traitement des affaires politiques français, où à partir du. Enfin, donc, la question est posée à Lamassoure, Sarnez, etc. Ils répondent et ça vaut point barre. Enfin, le journaliste n'a plus à aller chercher plus loin puisque la parole vient d'être donnée. Alors que les autres petits partis essaient de se manifester et finalement rencontrent strictement aucun écho. Hein, parce que il n'y a pas grand-chose qui est fait de ce côté-là. Enfin, a priori, même le monde diplomatique, finalement, a assez peu de... C'est triste.
De
relais.
On n'a pas si peu de relais que ça, parce qu'on a beaucoup d'éditions internationales. Donc, ce dossier-là que vous lisez dans l'édition française, vous le lisez aussi dans l'édition italienne, dans l'édition allemande, dans l'édition grecque. Et que quand on mène des batailles internationales, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir les mener à partir d'un journal qui essaime sur un grand nombre de pays.
On en reparlera peut-être à l'occasion des stratégies de défense à adopter.
On va écouter une petite musique, François, si tu es prêt. Voilà.
Oui, c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs.
Ah bon, je ne suis même pas au courant.
Oui, j'ai un disque. Voilà,
et puis comme ça, on pourra aborder la dernière partie de l'émission, et notamment juste... de l'absence de traitement médiatique. Tu veux dire quelque chose?
Juste une petite chose. Mmh. J'ai le souvenir des nouveaux chiens de garde que je regarde régulièrement, si j'ose dire.
Il n'y a pas d'image dedans. Hein.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, un documentaire, quelque chose pour nous faire sentir un petit peu ce qu'on peut faire des vidéos internet, parce que là je pense que ça nécessiterait une explication très didactique, très très argumentée, très précise, un vrai tuto exactement, pour parce que là on est entre gens de bonne compagnie, mais moi je pose la question demain matin à mes collègues, tiens, voilà. Et je ne sais pas s'ils seront au courant aussi, ou même s'ils auront l'ébauche d'une réponse face à cet accord. Est-ce que c'est prévu?
C'est pas le travail du monde diplomatique.
Certes, mais est-ce qu'il pourrait.
Ça, c'est une bonne réponse. C'est vrai qu'on vous demande à la fois.
J'hésitais, mais je dis bon, voilà. Mais s'il y a des auditeurs qui se sentent prêts de le faire.
Et puis un opéra aussi.
Un opéra, oui, pourquoi pas. Non, il faudrait mettre des images sur les mots, surtout. Oui, oui. Voilà, c'est surtout ça.
C'est une excellente idée. Il y a des gens mobilisés sur la question du GMT. C'est d'ailleurs l'une des choses les plus enthousiasmantes, alors qui viennent d'horizons très différents. Certains davantage mobilisés sur la question des poulets à la chlorine, d'autres plus sur les questions sociales. Mais vous avez quand même un arc de forces militantes qui font le relais entre des idées dont on est persuadé au Diplo que, aussi fortes soient-elles, elles n'ont pas de puissance toutes seules, si elles ne trouvent pas d'écho mobilisé au sein de la population. Et donc vous avez tous ces gens qui créent des collectifs, qui organisent des réunions et qui essayent de faire ce que vous proposez de faire avec des vidéos, c'est une bonne idée, qui le font lors de réunions publiques, des choses comme ça là. Nous, on va participer à cet effort à la hauteur de nos forces.
Je mets un veto sur les PowerPoint. On n'en veut plus, c'est dépassé. Voilà. Musique, et puis on se retrouve pour la dernière partie. On parlera de comment peut-être arriver à se défaire de cet accord, comment lutter contre, et le traitement médiatique aussi en plus général. Voilà, si on a le temps.
Try to brainwash the brain for good things.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes sur la troisième partie de l'émission spéciale consacrée au GMT ou le TAFTA. Enfin voilà, on choisit son nom, c'est bien. On est libre de ça déjà, de choisir le nom qu'on veut porter à cet accord. Formidable. Alors cet accord avec le monde diplomatique, Serge Halimi, Renaud Lambert et Benoît Bréville, est-ce qu'on peut arriver à lutter contre la puissance des multinationales qui veulent imposer leur réglementation aux États et donc au peuple? Est-ce qu'il y a un moyen? Alors peut-être Renaud.
Oui, on peut.
On peut. Alors, on peut. Je t'écoute.
Il faut déjà observer que l'effet Dracula, oui, qui avait fonctionné pour l'AMI, c'est-à-dire l'idée selon laquelle un traité négocié en secret commence à boiter un petit peu, battre de l'aile dès lors qu'on commence à en connaître les grandes lignes.
La lumière, surtout.
Exactement.
Dès qu'on met en lumière,
ça commence à capoter. Eh bien, on a observé peut-être les prémices d'un mécanisme de ce type-là avec le GMT sur la question du dispositif de règlement des différends entre États et entreprises dont a parlé Benoît tout à l'heure. Donc, rien n'est fait pour l'instant, mais on a entendu ici et là l'idée que peut-être le traité pouvait être signé sans le dispositif, qu'il faudrait y revenir plus tard, mais disons une marge de concession qui pourrait permettre peut-être de dire bon bah voilà, vous voyez, on a entendu les populations, on signe, sachant qu'il serait toujours capable de revenir dessus plus tard. Mais il est donc possible de lutter et de conduire les États à ne pas ratifier un document qu'ils devront ratifier. Alors je m'explique. Une fois le processus de négociation arrivé à terme, l'accord doit être ratifié à différents niveaux. Le premier niveau, c'est celui des États membres. Ça se fait au sein du Conseil. Mm-hmm. Bon, là, on a du mal à voir comment des États qui ont donné le mandat de négociation à la Commission reviendraient en arrière. Et c'est un peu le paradoxe qui anime cette campagne possible, qui est qu'elle repose sur le bon vouloir d'États qui ont tout fait pour faire passer le GMT. Mm-hmm. Mais bon, il est possible de faire chanceler les États et de revenir les élites sur les décisions qu'elles ont prises.
S'il y a une pression.
Exactement. Voilà. Mobilisation. Donc elle pourrait intervenir au niveau de la ratification par le Conseil, par les États membres. Le traité doit par la suite être ratifié par le Parlement européen. Là encore, il a possibilité de peser sur ses représentants politiques. Troisième volet de la résistance possible, elle a lieu au moment de la ratification par les parlements nationaux. Alors, monsieur Karel Duguk, dont on a parlé tout à l'heure, estime, lui, que bon, voilà, le GMT, c'est pas grand chose, il n'est pas nécessaire.
Ça l'arrangerait.
Oui, ça l'arrangerait énormément. Il faut bien dire ce qui est.
De remettre ça dans les parlements nationaux.
De toute façon, c'est gagnant-gagnant, je vous l'assure, dit-il. Oui. Donc, il n'est pas nécessaire que les parlements nationaux jettent un œil. Alors, nous, on a demandé à Raoul Marc Génard, qui connaît très bien ces questions-là, de nous éclairer. Selon lui, non, il en va tout autrement. Il est absolument nécessaire pour les États, en tout cas pour la plupart des États, de ratifier au niveau des parlements nationaux. Ça serait le cas pour la France. En France, la Constitution garde la main sur les traités, y compris les traités internationaux. Donc, un traité comme celui-ci devrait être compatible avec la Constitution. Pour juger de la compatibilité avec la Constitution, eh bien, on peut faire intervenir le Conseil constitutionnel. Oui. Tout ce processus implique, à un moment donné, une ratification au sein du Parlement français, à l'Assemblée nationale. Et là, l'Assemblée nationale, bon, à une couleur politique que l'on connaît, mais il est possible de peser sur ces gens-là. Encore une fois, comme vous le disiez, s'il y a des mobilisations, si des gens sont sont mobilisés. Et si encore tout ce processus ne rencontrait pas le succès, il est possible pour, j'ai plus tout à fait le chiffre en tête, je crois que c'est 60 députés, voilà, 60 députés ou 60 sénateurs, de demander au Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité du document. Donc,
Il y a des moyens de retarder, de faire perdre du temps, mais ce qui permet de mobiliser un maximum en expliquant encore plus ce que pourrait advenir si le GMT passait, etc. Donc c'est mobiliser nos troupes pendant ce temps-là. Peut-être qu'il y a des moyens effectivement par le Parlement de faire réviser, de faire consulter ou de retarder la mise en place de cette...
Si la France ne ratifie pas, le GMT ne voit pas le jour.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui seraient susceptibles de le faire? Je pose la question, mais...
Oui, je crois que on n'a pas enquêté là-dessus, mais je crois que la mobilisation a été très importante en Allemagne. D'accord. Notamment sur la question du dispositif de règlement des différends entre États et entreprises. Donc, oui, il est tout à fait envisageable que d'autres États ne ratifient pas. Mm-hmm. Mais bon, là,
on va parler de ce qu'on connaît, alors.
C'est la vieille histoire. Mm-hmm. Est-ce qu'une mobilisation populaire est en mesure de faire capoter un projet de ce type-là? Et nous, on pense que oui.
Et déjà, dans le cas de la France, le ton a un peu changé. Vous vous souvenez que quand, que quand François Hollande était à Washington, il est intervenu, il a eu trois phrases dans le registre du « il faut signer cet État le plus vite possible, sinon il y aura des oppositions, on n'en finira plus, allons vite, quoi ».
Il est de gauche, Hollande, hein. D'accord.
Donc, quand il est revenu, il a vu que c'est une déclaration qui n'avait pas, contribué à accroître sa popularité.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Et depuis, il y a pas mal de ministres qui se succèdent en disant que, certes, théoriquement, c'est un bon accord, mais qu'il y a toutes sortes de problèmes et qu'il n'est pas question que cet accord soit ratifié si les problèmes ne sont pas résolus au préalable. Il y a eu aussi, à un moment, lorsque l'affaire Snowden a éclaté, il y a eu tous ceux qui ont dit qu'il était quand même extraordinaire de poursuivre une négociation avec les États-Unis, alors que les États-Unis connaissaient minute par minute
les échanges
entre la partie adverse, si l'on peut dire. Là, récemment, il y a eu la question de l'amende qui risque d'être infligée à la BNP Paribas. Fabius a expliqué que si l'amende était infligée à la BNP Paribas,
ça remettrait peut-être en cause
l'accord. Donc maintenant, dès qu'il y a une difficulté qui surgit dans les rapports entre les États-Unis et l'Europe, on signale que cet accord n'est pas garantie. Ce qui est une tonalité assez sensiblement différente à celle d'il y a 6 mois où personne ne parlait de cet accord.
Alors, ce qui a bien fonctionné dans les médias, c'est qu'on a parlé tout de suite du poulet au chlore, des OGM, du bœuf aux hormones. Alors ça a pris.
Mais aussi du règlement des différends qui a été évoqué par Benoît.
La CPET sur l'État, mais c'est beaucoup parlé après. Mais c'est vrai que c'est très important.
On a commencé, je pense, par parler de l'exception culturelle à la base. Parce que je pense qu'une des choses qui fait obstacle aux mobilisations, c'est justement la capacité de donner l'impression qu'on lâche du lest pendant tout le processus, et donc d'arriver de faire partir la montgolfière avec plein de choses dedans, et au fur et à mesure de larguer du lest. Et dès le début, ils ont mis de côté l'aspect exception culturelle, parce qu'évidemment, quand on a commencé à parler de ça, les artistes, les milieux culturels se sont mobilisés en expliquant que voilà, c'est tous les trucs de barrières aux films étrangers, enfin de quotas de films français, à la radio, la musique, etc., etc., qui contrevient exactement à la libre concurrence non faussée que veulent les Américains. Donc du coup, d'emblée, on a dit on mettra l'exception culturelle de côté. Et ensuite, il y a eu maintenant, effectivement, le cas des règlements des différents États-entreprises où au début, personne n'en parlait, ou alors on en parlait de manière relativement favorable, même le PS au début défendait la chose. Et puis là, ces derniers mois, on a entendu, par exemple, Nicole Bricq, qui était à l'époque secrétaire d'État au commerce, qui a dit que les Français n'étaient pas forcément favorables à ce que ce dispositif soit inséré. Il y a également eu donc les Allemands qui, il faut savoir qu'ils sont en procès avec une entreprise suédoise qui leur demande $1 million, donc évidemment ça peut aussi jouer un peu dans le fait qu'ils ne soient pas des aficionados de cet accord. Et donc maintenant on voit des gens dire qu'il faut aussi laisser tomber cette partie du traité pour réussir à imposer ce qui est le plus important à leurs yeux, c'est effectivement la question des normes, et donc ils pourront, des barrières douanières, mais on sait qu'elles sont déjà très basses, mais petit à petit de donner l'impression qu'on lâche du lest, de manière à tuer en quelque sorte la mobilisation dans l'œuf. On a l'impression qu'elle est déjà victorieuse, alors qu'en fait, l'essentiel passe.
Il faut pas baisser la garde. C'est-à-dire que tout le processus que décrit Benoît est très juste. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est passé comme ça dans un contexte de campagne pour les élections européennes. Donc, il est tout à fait avantageux pour un dirigeant politique qui cherche à montrer qu'il est proche de la population, qu'il est conscient des intérêts de cette population et des intérêts nationaux lorsqu'il va représenter les gens qui votent pour lui au Parlement. Eh bien, il est intéressant pour eux de dire, voilà, mais on vous garantit qu'on veillera au grain. Bon, reste à savoir maintenant si cette vigilance aura encore cours maintenant que les élections sont passées. C'est une des raisons pour lesquelles nous on a choisi de publier ce dossier après les élections européennes, puisque la mobilisation doit se poursuivre et continuer, même en dehors de ce contexte.
On peut aussi parler, on n'aura plus trop le temps, mais c'est vrai qu'il y avait le problème de la propriété intellectuelle sur les semences, etc. Enfin, c'est des situations dramatiques. Là, il y a de quoi aussi soulever la population, j'imagine. Enfin, à moins qu'on veuille tous manger du Monsanto, je ne sais plus les chiffres, les numéros, mais bon, et empêcher le monde paysan de faire ses propres semences.
Il y a aussi l'exception culturelle concernant le cinéma. On en a parlé tout à l'heure. On en a bien parlé au moment de Cannes, justement, où la France a mis en exergue cette possibilité que l'on a de subventionner le cinéma, ce qui fait de notre cinéma quand même un des meilleurs du monde.
Enfin, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On va passer sur le cinéma français.
Enfin, on disait un des plus divers.
Voilà. Voilà, le cinéma du 6e arrondissement, par le 6e arrondissement, pour le 6e arrondissement, et les histoires d'adultère. C'est très bien, mais il va falloir peut-être passer à autre chose. Donc, on peut revenir donc juste sur la TAFTA. Non, mais faut le dire, moi. Voilà. D'ailleurs, si entre parenthèses, Marin Karimitz pouvait changer les sièges de ses cinémas parce qu'il commence à tomber en ruine. Mais là, on est en dehors du sujet. Donc, la TAFTA, donc voilà. Donc, comment alors lutter, entre autres, à part faire pression sur nos dirigeants, entre guillemets, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il y en a certainement. Bon, je pense que tous les militants, évidemment, ils les connaissent, mais en termes de diffusion, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont pas trop au courant de tout ça? Vous avez des idées au monde diplomatique?
Bah déjà, les mettre au courant.
Les mettre au courant, déjà. Acheter le monde diplomatique,
par exemple.
Voilà, acheter le monde diplomatique. Surtout celui du mois de juin, parce qu'il y a un dossier dessus. Et ça permettrait peut-être de diffuser l'information. D'autres idées?
Bah, c'est un peu embêtant que vous demandiez ça.
Bien sûr,
nous, on en a 1h20 d'émission.
Mais c'est une
avoir exposé un certain nombre de raisons de s'opposer à ce traité.
Il y a les raisons de s'opposer, mais c'est diffusé. Après, les raisons, c'est à part le monde diplomatique.
Non, mais les raisons qu'on a données sont des raisons concrètes qui concernent la vie des gens, la souveraineté des peuples, et qui doivent être de nature à déclencher une mobilisation générale, me semble-t-il.
Il y a des rassemblements publics, il y a des manifestations qui ont lieu, qui sont organisées. Il y a un collectif, Stop TAFTA, avec un site internet qui rassemble tout un tas d'organisations qui souhaitent dénoncer l'accord. Il y a des réunions publiques qui sont organisées. Donc bon, le processus que l'on décrit, c'est le processus traditionnel des luttes politiques, où chacun apporte un petit peu sa pierre en fonction de son savoir-faire. Il y a des gens qui animent des blogs, il y a des gens qui organisent des réunions, il y a des gens qui organisent des manifs. Tout est bon pour faire connaître la réalité de cet accord et pour conduire des gens dans la rue le moment venu. Puisqu'en général, les mobilisations massives pèsent.
D'accord, donc toujours avoir un œil sur Demosphère, hein, où il y a toutes les informations sur les manifs, les luttes actuellement en cours.
Il faut voir aussi une chose que Benoît a évoquée et qui me paraît très importante, cette question de l'exception culturelle. Parce que les partisans de cet accord ont compris d'emblée que la culture pouvait être un point de blocage, pouvait mettre en danger la ratification de l'accord. Et ils savent que, par exemple, en France, la question de l'exception culturelle mobilise les intellectuels et les journalistes beaucoup plus que d'autres sujets. Donc, ils ont décidé d'écarter cette question, de dire que, de toute façon, l'exception culturelle ne serait pas remise en cause. Ce qui a permis, d'ailleurs, au gouvernement français de proclamer la victoire d'emblée, en disant, voilà, ce qui compte le plus pour nous, c'est l'exception culturelle, elle ne sera pas remise en cause. Et les journalistes qui auraient été beaucoup plus intéressés par cet accord, si cet accord avait pu remettre en cause l'exception culturelle, on peut dire, bon ben voilà, l'essentiel est préservé. Ça a été donc une stratégie de négociation habile qui consistait à mettre de côté le sujet susceptible de fâcher le plus les gens qui avaient le plus accès à un micro.
Et voilà, aux médias, bon, donc dangereux.
Voilà, donc les plus dangereux de leur point de vue. C'est pour ça qu'il faut dire que peut-être que l'exception culturelle est préservée, jusqu'à quand, parce qu'il y a toujours des moyens de contourner cette exception culturelle, mais il y a tous les autres aspects du problème.
On peut faire un parallèle avec les réformes des retraites. Hein.
Voilà.
On les fait secteur par secteur, et les plus dangereux en dernier, c'est-à-dire le transport, quand une fois que tout le monde a signé, on va s'occuper des derniers. Quoi.
Donc là, l'expérience a été profitable à nos adversaires. Ils ont bien compris que ça pouvait poser un problème. Ils ont décidé de préserver en quelque sorte l'essentiel en sacrifiant l'accessoire.
Ils ne sont pas bêtes, donc.
Mais est-ce que malgré tout, dans le mandat qui a été donné à la Commission européenne, il n'y a pas quand même déjà quelques articles pour remettre en cause cette exception culturelle?
C'est une excellente question.
Il y a des alinéas partout dans ce traité qui est long à lire.
On n'a pas le mandat de négociation. C'est un problème. Les organisations militantes ont demandé à pouvoir lire le mandat pour savoir un petit peu dans quel cadre, avec quels objectifs la Commission négociait. On a même cru, il y a environ un mois, que ce mandat serait publié, et différents États s'y sont opposés. Ce qui suggère quand même qu'il y a des choses assez intéressantes, ou en tout cas ça pique la curiosité.
Ben c'est étonnant parce que dans un accord, comme on disait tout au début, gagnant-gagnant, on devrait pouvoir avoir accès à tout puisque tout le monde avait trouvé son compte. C'est là où on est devant des contradictions qui sont étranges et qui pourraient permettre d'avoir quelques suspicions sur l'honnêteté des gens qui rédigent ce genre de trucs. Bon, j'irai pas jusque-là parce que sur Radio Liberté, on ne veut pas se fâcher avec les gens. Donc, tu disais qu'effectivement, on n'avait pas accès à pas mal au texte, quoi, en tout cas. Par contre, les médias, est-ce qu'ils ont accès à quelque chose? Enfin, pas plus que nous, mais est-ce qu'ils, les gros médias, hein, je ne parle pas de Radio Liberté, bien sûr, est-ce que c'est possible que ça intéresse les médias plus que le foot? Est-ce que c'est un sujet qui va quand même finir par. Est-ce qu'il va falloir aussi une pression populaire pour qu'enfin on en parle dans les médias? Ou est-ce que les médias, peut-être, oui Benoît.
Voilà, je crois qu'on a vu les médias en parler récemment. Il y a eu un petit peu l'acmé de la couverture médiatique du GMT dans les 3 semaines avant l'élection européenne. Et maintenant, je pense que plus aucun média va parler de ça pendant les 2 prochaines années, alors même que les négociations vont continuer et qu'il y aurait tout autant de raisons d'en parler au mois d'octobre qu'au mois de mai dernier. Sauf que là, on peut effectivement s'attendre à ce que ce soit un sujet qui disparaisse.
D'accord, une sorte d'emmerde.
Mais nous, on a l'intention de continuer à couvrir le sujet.
J'imagine bien.
Dans les numéros, très régulièrement.
D'accord. Éventuellement, bon, s'il y a besoin, on fera une deuxième émission.
Il y aura les dernières nouvelles.
Nous, on couvrira moins le retour de Sarkozy.
Ça vous a.
Et le match Hollande-Sarkozy 2017,
oui, passionnant.
Qui va quand même nous occuper pendant les 3 années à venir, matin, midi et soir. Ah, oui. Bon, vous savez comment fonctionne la profession de journaliste. C'est vrai que c'est quand même moins fatigant d'avoir un homme politique qui passe en lui disant que pensez-vous du retour de Sarkozy, ou est-ce que vous pensez que Hollande finira son mandat lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, après c'est le week-end, et de recommencer la semaine suivante, que de se plonger dans un dossier aussi compliqué que celui
du grand marché transatlantique.
Même le nom est compliqué.
Le grand marché transatlantique pour demander à X ou à Y ce qu'il pense du dispositif relatif aux arbitrages internationaux.
Ça risquerait de faire fuir les annonceurs. Nous n'avons pas ici.
Les annonceurs, oui. Voilà. Et puis il y aura moins de reprises en 15 secondes sur YouTube, etc.
On a vu quelques articles assez intéressants dans Le Monde, notamment, qui semblaient vraiment reprendre une déclaration de Fleur Pellerin, qui s'occupe de ce dossier pour la France, et qui a estimé que la couverture, la présentation dans les médias du GMT, du Grand Marché Transatlantique, était, je la cite, inutilement anxiogène. Et Le Monde
gagnant-gagnant, je ne sais pas en quoi ça sera anxiogène, je ne comprends pas.
Exactement. Et Le Monde s'est vraiment distingué dans ce domaine-là, en reprenant sur un ton pas simplement moqueur, les arguments des anxiogénistes, on pourrait dire, donc des gens opposés au TAFTA, qui passaient vraiment pas pour les gens les plus intelligents qu'on pourrait rencontrer, qui étaient présentés dans une première partie de l'article, et ensuite venait le règne de la raison, et voilà, une présentation beaucoup moins anxiogène de ce GMT.
D'accord, très intéressant.
Mais c'est un sujet qui apparemment soucie beaucoup le gouvernement français.
Oui, parce que ça prend quand même, mine de rien.
Oui, et puis vous avez vu qu'à l'occasion du dernier du remaniement, du changement de gouvernement, on a bien veillé à ce que le commerce extérieur passe de la souveraineté du ministre de l'économie à celle du ministre des Affaires étrangères. Oui. En partant de l'idée que Montebourg serait peut-être plus difficile à manœuvrer sur cette affaire que Laurent Fabius, qui est un partisan acharné depuis longtemps du libre-échange.
Bien qu'il ait appelé à voter non pour à l'époque du traité européen, ce qui était juste une combine, bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un mec qui appelle non et un mec qui appelle oui dans un parti. Mais c'est marrant de voir comment ils changent très vite leur fusil d'épaule. Donc donc ça a changé. Donc ça a changé au niveau du ministère. Ils ont écarté ça, mais c'est prévisible.
C'est une bataille, c'est une longue bataille. Voilà, il y a encore des années devant nous.
Les pots de bananes vont tomber de partout, j'imagine. Voilà pour faire tomber
les pots de bananes, c'est uniquement nous qui les déposerons.
Oui, mais je pense qu'ils vont. Ils en balancent
sur des rails.
Hein.
Mais la métaphore de Benoît tout à l'heure de la montgolfière me semble très juste. Il faut veiller à ce qu'il lâche les sacs de sable les plus lourds, ce qui vraiment pose problème. Mais il faut tout faire pour que la montgolfière ne décolle pas, quoi. Il faut pas se contenter d'un GMT sans dispositif de règlement des contentieux État-entreprise, d'un GMT sans l'aspect exception culturelle, et puis je sais pas moi, sans poulet à la chlorine, mais avec le bœuf aux hormones. Non, c'est tout un paquet. Et puis quand quand on aura fini ce combat-là, on pourra peut-être s'intéresser à l'Union européenne qui nous a proposé ce dossier-là et un Parlement qui a voté
Donc, c'est un vaste débat, quoi.
Mais... Pourquoi pas ?
Oui, non, mais.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas, à vrai dire, nous ne sommes pas favorables au libre-échange. Dans ce traité, il n'y a rien qui nous plaise.
On n'est pas les seuls, j'imagine.
Non, on aime que les choses soient plus lentes, les échanges plus lents, les choses plus lourdes.
On est archaïque un peu.
Les circuits plus courts. Voilà. On n'est pas du tout pour la vitesse, pour que le raisin soit transporté du Madagascar, nettoyé en Italie, expédié en Norvège.
Emballé, je ne sais
plus. Tout ça, je ne sais, au nom de la modernité.
Enfin, y a-t-il une chronologie dans cet accord ? Est-ce que il y a une date butoir, quelque chose qui permettrait de finaliser, qui va permettre de finaliser l'accord ?
Alors la fin, c'est 2015, hein, si j'ai bien lu.
Prévu.
Attention, après, ça peut se...
Ce qu'on disait sur le traité transpacifique, c'est ce qu'on disait sur le traité transpacifique, où ils avaient prévu 5 rounds de négociations. Et où ils en ont fait 20, où ils en sont au 25e. Ils disent 2015, ça peut être 2018.
Il y a de l'espoir, alors.
Quand Serge dit que c'est une longue bataille, ça peut vraiment être une très longue bataille.
Mais dans le dossier, il y a une chronologie qui évoque les 20 ans de préparatifs qui démarrent le 22 novembre 1990 et ça se terminera en 2015 ou plus tard.
C'est un peu comme les projets avec Bouygues, hein. Ils annoncent la date de la fin des travaux, mais ça peut toujours prendre un an ou deux de plus.
Et être plus cher.
Et être beaucoup plus cher, surtout, avec des trous dans le béton. On reparlera du nucléaire une autre fois.
On va se faire peut-être une petite respiration musicale et on va faire une conclusion.
On va faire une petite conclusion.
Une grosse conclusion, même. Voilà.
On va terminer là.
Allez. On va terminer là, comme tu dis. Bernard Davilliers.
Tu ne verras plus ceux qui luttaient ensemble, disparus, les journées se ressemblent. Tous ces hommes sans femme, des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Partis si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez vos idées, vos visages guerroyés. Les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les, portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille. Serré pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta front. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues. Solidaire et marginal, ça fait sourire un peu mal.
des beaux visages éloignés. Les moulins, les nuages.
Lucha por tu raza y por tu gente y tu verás.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, émission spéciale ce soir consacrée au taffeta dans tous ses états, si j'ose dire, n'est-ce pas? Et on va, en guise de conclusion,
on va se quitter, tout simplement.
On va se quitter.
On va remercier donc Serge Halimi, Benoît Bréville et Renaud Lambert d'être venus pour nous parler du GMT taffeta. On choisit son nom.
Nous on a pris GMT parce que c'est le terme français.
On peut l'identifier.
En italien, on aurait choisi autre chose.
C'est un acronyme qui est clair pour les Français.
Grand marché transatlantique.
Ok, très bien. Bah merci à vous. Donc si vous avez quelque chose à dire du genre, je sais pas, vous faites vous allez parler dans un endroit quelconque bientôt, si vous avez la promo personnelle à faire.
Je voulais dire quelque chose et j'ai pas eu le temps de dire.
Voilà, par exemple, vas-y, Renaud.
Il y a une réunion publique le 11 juin, donc c'est dans pas longtemps, je pense que c'est mercredi.
C'est mercredi. Voilà. Il n'y a pas de train, alors profitez-en.
Au lieu-dit, donc rue Sorbier, dans le 20e, où s'exprimera Raoul Marc Génard et je serai avec lui.
Très bien. Donc, notez.
Il y en a une autre à Grigny.
Ah, c'est, pas
c'est à côté de chez moi, ça.
Vers le 20 juin.
Ah oui.
Mais je pourrais plus vous dire la date.
Pas si
vous tapez Grigny, GMT.
D'accord, vous trouverez les informations.
Grigny, GMT. Ouais, je serai là.
Serge Halimi, vous avez un message? Achetez le Monde Diplomatique, donc je le fais à
Place. C'est le message.
Donc, pour soutenir la presse un peu indépendante. Oui. Je dis un peu, c'est de la provocation. Et puis n'oubliez pas le Monde Libertaire non plus, hein, parce que je vois que Lulu me regarde là-bas et avec un sale œil. Donc le Monde Libertaire aussi, c'est pas mal. Et puis on va continuer, avec De la Pente du Carmel et La Vue est Magnifique, parce qu'on va bosser ce soir.
Oui.
Et puis une petite émission un peu.
On va quand même bosser. En roue libre.
Voilà. Merci à vous. Et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, peut-être célébrer la victoire et l'enterrement. Et puis voilà, en tout cas, à très bientôt. Merci au Monde Diplomatique d'être venu et on se retrouve dans 5-10 minutes, nous.
Oui, le temps d'une petite musique.
Merci de nous avoir invités.
Au plaisir.
Au plaisir, vraiment.